Vous écoutez
RMC.
Et donc l'enquête s'accélère à Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Avec cette annonce du parquet d'Evry hier soir, quelques heures après la mort de Shamseddine, 15 ans, 5 jeunes ont été placés en garde à vue, 4 mineurs de 15 à 17 ans, un majeur de 20 ans. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le lynchage de l'adolescent à la sortie de son collège. Jeudi, un acte prémédité pour son cousin Rachid qu'RMC a rencontré.
Il l'attendait avec une cagoule dans un chemin. C'est pas une chose qui a été faite comme ça, mon petit cousin. C'était un ange. Il a jamais eu de problème avec la justice, il a jamais eu de problème avec personne. Toujours le sourire aux lèvres. Ce qui a été fait, c'est un meurtre, c'est un assassinat qui a été commandité par quelqu'un. Pour quelle raison, je ne sais pas. La justice nous le dira par la suite. Mais en tant que père de famille, de voir que son enfant part à l'école et ne revient pas parce qu'il a été sauvagement frappé, c'est dur pour tous les parents et pour tout le monde. C'est très très dur.
La préméditation, hypothèse que creuse la police puisque l'enquête est ouverte pour assassinat et violence en réunion. Je vous signale également qu'à 7h40, Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, sera notre invité.
Autre affaire d'ultra-violence à la sortie d'un collège, celle de la jeune Samara à Montpellier, qui progresse aussi.
Dans ce dossier, 3 mineurs ont été mis en examen hier, poursuivis pour tentative d'homicide volontaire. Sous contrôle judiciaire, ils n'ont plus le droit d'approcher l'élève de 13 ans. Elles, qu'ils sont accusés d'avoir passé à tabac. Les 3 jeunes ont d'ailleurs avoué avoir participé à l'agression. Guillaume Bier.
En garde à vue, ils ont tous les 3 reconnu avoir frappé la jeune Samara. Les coups les plus violents auraient été portés par un garçon de 15 ans extérieur au collège. Concernant le mobile, d'après le procureur, le contexte de cette violente agression est celui d'un groupe d'adolescents qui ont pour habitude de s'invectiver sur les réseaux sociaux et de mettre en ligne des photos des uns des autres sur des messageries. C'est de là que serait parti le conflit autour de Samara. L'adolescente sur son lit d'hôpital a été brièvement interrogée par les enquêteurs. Selon le procureur, elle a raconté avoir déjà été agressée la semaine dernière par l'un des mis en cause. En revanche, elle n'a pas parlé d'un quelconque harcèlement subi ces derniers mois. Mais l'enquête se poursuit pour préciser le contexte des faits et identifier d'autres protagonistes.
Et sur ces affaires, Emmanuel Macron disait hier attendre les suites des enquêtes, tout en rappelant que selon lui, l'école devait être un sanctuaire pour les élèves.
Le chef de l'État qui, au passage, a dégainé sa future réforme de la formation des professeurs.
Avec d'abord le retour d'une licence dédiée à la préparation au concours pour devenir enseignant, concours qui deviendrait alors accessible à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement. Ceux qui réussissent entameraient alors 2 ans devant une classe payée pour terminer leur formation. Tout cela pour résoudre la crise du recrutement des profs. Guylaine David, la secrétaire générale de la FSU SNUIPP, premier syndicat du primaire, n'est pas vraiment convaincue.
On est favorable à cette formation de 2 ans rémunérée qui peut attirer les étudiants à terme. Mais après, il faut voir qu'on y met dans cette formation. Et là, pour nous, il y a une ligne rouge de franchise sur le fond de la formation en elle-même. On a l'impression que le métier d'enseignant, de professeur des écoles ne serait que un métier où on applique des fiches et des bonnes pratiques et des méthodes. Non, c'est pas comme ça que fonctionnent les élèves. D'ailleurs, il n'y a aucune méthode qui est efficace pour tous les élèves parce que ça dépend bien évidemment de la construction de chacun. Et ça nous inquiète énormément.
Et début de la licence en 3 ans prévue à la rentrée 2024, le concours à Bac plus 3 accessible, lui, en 2025. À l'étranger, un séisme rare mais léger a secoué New York hier, magnitude de 4,7. Il n'a pas fait de dégâts majeurs, affirme le maire de l'immense ville américaine. Le compte X de l'Empire State Building a même tweeté en majuscule « Je vais bien ».
Bon, bah s'il va bien, tout va bien. Ça tremble donc un peu aux États-Unis et ça commence à transpirer fort partout en France.
Je trouve qu'il fait chaud, mais on est si bien.
Nous aussi, chez là, on trouve qu'il fait chaud pour un mois d'avril. Pic de chaleur précoce, on pourrait atteindre la barre des 30 degrés dans le sud jusqu'à 26 à 27 degrés sur la moitié nord. Il a fait chaud donc à Marseillan, dans l'Hérault, au bord de la Méditerranée, pour le plus grand plaisir des Marseillanais et des touristes.
C'est bien, impeccable, nous avons un beau temps, ça fait plaisir comparé à l'hiver, les beaux jours sont là.
Le temps ici est magnifique, ça fait plaisir de revoir le soleil, il était parti pendant un petit moment.
Nous, ça fait une semaine qu'on est en vacances, on a eu du beau temps depuis une semaine.
Quel temps, hein, magnifique, hein.
Bah oui, on profite, on fait du sport, on promène, bon la bronzette ce sera pour plus tard.
Franchement ça fait plaisir qu'il est là, le soleil, ça commence à être l'été et tout ça, on commence à revoir des personnes, de la bonne ambiance et les campings commencent à se remplir.
Et des touristes qui vont peut-être arriver plus nombreux à Marseille, c'est les vacances pour la zone C dès aujourd'hui. Pour vous, chanceux du sud-ouest et de la région parisienne.
RMC, il est 7h05. Le football est contrairement aux Marseillanais, les Marseillais, eux, font grise mine.
Défaite 3-1 contre Lille hier soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Les espoirs de Ligue des Champions s'éloignent pour l'Olympique de Marseille. Les Lillois, eux, montent provisoirement sur le podium. Au programme aujourd'hui, Lens Le Havre à 17h, Paris Saint-Germain, Clermont à 21h. Et puis les féminines de l'équipe de France, quant à elles, ont bien entamé les matchs de qualification pour le prochain Euro. Premier match et première victoire, 1-0 contre l'Irlande.
Et puis aujourd'hui, c'est aussi le début des huitièmes de finale de la Champions Cup de rugby.
À suivre, bien évidemment, cet après-midi en direct sur RMC à 18h30. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit en Grande Europe les Saracens. Un match couperet, charnière pour les Bordelais qui sont toujours dans l'attente du premier titre de leur histoire, Nicolas Paolorsi.
Oui, depuis plusieurs saisons, Bordeaux flirte avec ce Graal sans jamais l'atteindre. Plusieurs demi-finales de Top 14, une demi-finale de Champions Cup il y a 3 ans. Mais pour le demi de mêlée, Maxime Lucu, l'UBB doit gagner pour changer de statut.
Pour l'instant, on n'est pas une grosse équipe d'Europe ni une grosse équipe du championnat parce qu'on n'a pas encore gagné.
Face aux Saracens, la pression sera grande. Pour un effectif taillé pour gagner, le manager Yannick Bru.
Je crois que notre groupe, il a besoin de ça. Je crois qu'il a besoin de cette pression pour aller pousser, aller chercher dans les derniers retranchements.
Un combat qui sera déterminant pour la suite de la saison, Maxime Lucu.
Si on arrive à passer des matchs comme ça, ça voudra dire que Bordeaux peut rivaliser avec tout le monde, quoi.
Contre les Saracens, l'UBB compte bien marquer les esprits et prouver à tout le monde que cette saison, elle a l'étoffe pour s'asseoir à la table des grands noms du rugby européen.
Nicolas Paolorsi pour RMC. Et puis cette fois, c'est officiel. Brody James, le fils de la légende du basket américain LeBron James, va se présenter à la prochaine draft NBA, c'est-à-dire que celui qui est encore à la fac pourra être sélectionné par une équipe de la Ligue américaine. Brody, qui a vécu une saison compliquée, opéré d'une malformation au cœur, il a peut jouer, mais il a un petit argument pour être sélectionné tout de même. Son quadruple champion NBA et meilleur marqueur de l'histoire de père a toujours dit qu'il voulait jouer avec son fils avant de prendre sa retraite.
Ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille.
Une belle histoire de père et fils, dites-moi.
Exactement, et de gros sous, il faut le dire aussi, parce que LeBron James, c'est pas gratuit dans une équipe de basket, il faut le dire.
C'est certain, quand on porte ce nom, il faut réussir à se faire un prénom, etc. Ah mais... on va garder Daniel Balavoine, là. Franchement, transition parfaite. Je vous remercie par avance, Victor.
C'est parce un métier.
Que... oui, vous avez raison. C'est comme ça, nous sommes professionnels ici. Vous savez qu'on aime se réveiller avec vous, prendre de vos nouvelles. Tiens, Christian Duvar nous salue sur l'appli RMC. Rally aussi, qui fait un petit coucou à toute l'équipe et qui nous souhaite bonne matinée. Et puis Jérémy, qui est infirmier libéral en Ardèche, nous dit que récemment, le 25 mars, il a découvert un petit Livio qui est né, mais oui, un beau et gentil bébé. Merci à Elodie qui est une maman et une épouse parfaite.
Oh, c'est mignon.
Félicitations, Jérémy. Vaut mieux dire ça au début. Alors on embrasse Elodie. On se reparle dans quelques semaines, quelques mois, puis on verra les conséquences de Livio sur la vie de couple. Et non, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Et merci de nous écouter, de vous réveiller avec RMC. Soyez tous les bienvenus, il est 7h09.
À suivre dans la matinale week-end.
À Viry-Châtillon, 5 jeunes de 15 à 20 ans ont donc été placés en garde à vue hier soir, suspectés d'être les auteurs de l'agression de Shams Eddine, décédé de ses blessures. Jean-Michel Villain, le maire de Viry-Châtillon, très ému hier, veut aussi apporter des solutions. Il sera notre invité tout à l'heure à 7h40.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. On passe à table, bon appétit.
Je suis pas certain. On va parler de la nourriture du futur, de la viande cultivée en laboratoire.
Effectivement, ça donne pas vraiment envie. On verra ça tout à l'heure. D'abord, notre question du jour, est-ce qu'il faut revenir au supermarché à l'ancienne? Moins de caisses automatiques, plus forcément d'ouverture jusqu'à 23h le dimanche. Le 32-16 est ouvert. C'est à vous de nous dire dans deux minutes.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, bienvenue. On espère que tout le monde va bien. À la maison, au boulot, passez nous faire un petit coucou, bien sûr. Il est 7h12, vous êtes sur RMC.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Marie, bonjour Mathieu.
Tous les matins, une question d'actualité. Vous êtes invité à voter sur notre compte Twitter, à débattre au 32-16. Ce matin, le groupe Casino qui va réduire le nombre de caisses automatiques dans ses magasins. Est-ce que finalement il faut revenir à des supermarchés à l'ancienne sans caisses automatiques ?
Oui, c'est la question que nous vous posons ce matin après l'annonce faite la semaine dernière par Philippe Palazzi. C'est le nouveau patron du groupe Casino. Il souhaite faire marche arrière sur le déploiement des caisses en libre-service. C'était pourtant Casino qui en premier avait commencé à les introduire dans ses magasins il y a 20 ans. Idée venue des États-Unis où les caisses automatiques fleurissaient depuis le début des années 90. En France, aujourd'hui, elles sont partout. 71% des magasins en sont équipés, selon le cabinet Nielsen IQ. Elles ont bel et bien remplacé les hôtes de caisse, dont les effectifs auraient baissé jusqu'à 10% ces dernières années. Alors sur le papier, effectivement, les caisses automatiques, c'est la promesse d'une rentabilité maximum, disponible à toute heure d'ouverture du magasin, qui ne prend pas de pause. Donc selon un expert de la grande distribution, une caisse automatique coûterait en fait 25% moins cher qu'une caisse traditionnelle.
Alors oui, mais ça c'est dans un monde idéal, sans bug à répétition, ni caisse indisponible.
Oui, selon une enquête américaine, 2 utilisateurs sur 3 auraient déjà eu des problèmes avec une caisse automatique.
Seulement 2 sur 3.
C'est déjà pas mal.
3 sur 3.
Et en plus de ces soucis techniques, les vols sont plus fréquents à ces caisses automatiques. Parmi les tours de passe-passe classiques observés par les grandes enseignes, la bouteille de vin à 30 euros scannée avec le code barre d'une bouteille premier prix, les petits articles dissimulés et pas typés, un fléau que les distributeurs veulent combattre puisque les vols représenteraient jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires.
Et puis surtout, il n'y a plus d'échange aux caisses automatiques. On n'a personne avec qui parler de tout, de la pluie, du beau temps.
Ah oui, c'est d'ailleurs la volonté du patron du groupe Casino, en réduisant les caisses automatiques, réhumaniser les points de vente, en remettant des personnels au service des clients. Objectif, remettre les magasins à niveau avec un investissement d'1,2 milliard d'euros. Alors ça, ça plaît au syndicat de Casino qui, dès le début, contestait cette innovation technologique. Écoutez Lionel Mamboumia, il est délégué syndical central de la CGT Casino.
On la salue cette nouvelle-là, sachant qu'on sait au moins qu'on va rembaucher du personnel derrière. Au niveau de l'emploi, oui, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand on parle de futur, c'est vraiment revenir là-dessus et repartir sur les caisses traditionnelles.
Et autre marche arrière envisagée par le groupe, les horaires d'ouverture de ces magasins. Dans certains endroits, ça a du sens de rester ouvert jusqu'à 23h ou le dimanche après-midi. Dans d'autres, non, selon le nouveau directeur général.
Alors, à vous de nous dire, faut-il revenir à des supermarchés à l'ancienne ?
Eh bien, nos auditeurs ont répondu oui à plus de 78% à notre consultation sur notre compte Twitter. Mireille Cash qui salue Casino pour ce rétro-pédalage.
Merci beaucoup Kevin. Vous continuez de voter sur notre compte X, notre compte Twitter, et vous débattez au 32-16. Tiens, Fabrice nous appelle ce matin depuis les Pyrénées-Orientales. Bonjour Fabrice.
Et bonjour.
Vous travaillez en grande distribution, vous êtes consommateur, vous êtes client ?
Non, je suis consommateur. J'ai travaillé dans la grande distribution spécialisée.
Ok.
Après, je ne suis pas dupe. Casino, il est... Bon, il retourne en arrière, mais aussi parce que il a aussi, je crois, avoir entendu cette semaine une étude comme quoi, bon, ben les caisses automatiques étaient moins rentables, hein, le panier moyen
était oui.
Un petit peu moins fort, donc bon.
Et c'est, d'ailleurs, c'est vrai, Fabrice. Je ne sais pas si vous allez régulièrement en caisse automatique, mais quand on fait le choix d'aller vers les caisses automatiques. Bon, c'est parce qu'on n'a que 2-3 produits, finalement. Et peut-être qu'à force, on s'habitue à venir peut-être plus souvent au supermarché, mais avec moins de produits.
Ouais, sans doute, je ne sais pas. Moi, je n'y vais pas, de toute façon. Donc, je suis allé une ou deux
vous
fois.
Vous boycottez, vous ?
Ouais, j'y suis allé une ou deux fois. Bah, je ne vais pas faire le dire, tout est parfait. Ça m'est arrivé d'y aller une ou deux fois, surtout au début, quand on est arrivé, mais je me suis aperçu que finalement. Mais puis en plus, moi, il y a un truc qui me dérange, hein. Comme j'avais dit dans une intervention sur l'appli, comme disait Coluche, hein, à l'époque des stations-service où il n'y avait plus de pompistes, bientôt ils vont nous donner l'appel et l'appel et on va creuser. Hein, et là c'est pareil. Hein. Là c'est pareil. Là aujourd'hui on fait le boulot. Demain, on fait quoi ? On va dans la réserve, on fait la mise en rayon, et puis en partant, on passe un coup de balai.
Effectivement, c'est au consommateur de faire le boulot, mais ça réduit le travail de ceux qui étaient en caisse ou sont encore dans les rayons. Vous avez raison de le signaler, Fabrice.
Il faut rappeler quand même que dans tout travail, il y a ce qu'on appelle une fiche de poste.
Ouais.
Donc le travail d'une hôtesse de caisse ou d'un hôte de caisse, c'est d'accueillir le client, de scanner les produits, d'encaisser, de rendre la monnaie, Et voilà, et de gérer ça.
Ah bah, justement, Fabrice, quittez pas, parce que Carole arrive là. Carole arrive depuis Marseille, des Bouches-du-Rhône. Bonjour, Carole.
Bonjour.
Vous nous écoutez, vous avez eu envie de composer le 32-16, parce que justement, vous avez travaillé depuis. Vous travaillez encore.
Oui, toujours.
Depuis 27 ans, dans le groupe Casino, en tant que manager de caisse.
Exactement. Exactement.
Choix farfelu, vous dites, ces caisses automatiques, là.
Oui, choix farfelu, parce que, si vous voulez, nos clients, et surtout en supermarché, bon, il faut quand même préciser que le groupe Casino va disparaître. Hein. Il ne restera plus que les Monoprix et les Franprix. Les supermarchés, les géants Casino, comme vous le savez, vont disparaître. Fin juin, c'est terminé, il n'y aura plus de magasins.
Ça, c'est une certitude.
Ça, c'est une certitude.
Qui vous a été confirmé par vos syndicats, par vos représentants du personnel?
Oui, je suis moi-même déléguée syndicale centrale de l'UNSA. Voilà. Donc,
vous avez eu des échanges avec le repreneur, il vous a assuré que les grands magasins supermarchés Casino n'existeront plus.
Les supermarchés, oui, nous avons été vendus à Auchan et à Intermarché, et quelques-uns à Carrefour. Bref. Donc, entre autres, oui, des choix farfelus comme la mise en place de caisses automatiques. Alors, les clients venaient chez nous justement pour ce côté familial chez Casino, dans nos supermarchés, tous les matins, à l'ouverture. On avait nos petits vieux qui venaient pour discuter avec l'hôtesse de caisse.
Et ils ont disparu, ces clients-là ?
Alors, ils n'ont pas disparu. Ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter. Certains ne se sont jamais adaptés. Ils ont toujours voulu continuer à aller sur des caisses traditionnelles, attendez qu'il y en ait, parce que parfois, on n'en mettait même plus. Il ne restait que des caisses automatiques dans certains magasins. Mmh. Donc, déshumanisation totale, quoi.
Et voilà. Les files d'attente se sont allongées. Et déshumanisation...
Oui, parce que ce n'est pas plus rapide, en vrai. Parce qu'elle bug tout le temps.
Et
il y a
des problèmes
constamment.
C'est vrai que la déshumanisation... Alors, parce que, effectivement, on a mis ces caisses automatiques, mais par voie de conséquence, le comportement aussi des consommateurs a changé. Foued nous écrit, maintenant la majorité des clients, même quand ils vont à une caisse traditionnelle avec une caissière, ils ont les yeux rivés sur leur portable, ils disent à peine bonjour à l'hôtesse de caisse.
Ah ben complètement.
Parce qu'ils ont pris l'habitude que finalement, passer à la caisse, on parle pas.
On parle pas, voilà. Et puis bon, bien sûr, ça permet de supprimer des emplois, puisque une hôtesse de caisse, parce qu'on avait quand même besoin d'une hôtesse de caisse qui devait gérer ses caisses, qui doit d'ailleurs toujours gérer ses caisses automatiques. Donc, une hôtesse de caisse pouvait gérer jusqu'à 10 caisses automatiques parfois.
Eh oui. Bon.
Voilà.
Impossible. Faut pas que les trois qui tombent en panne.
Eh oui, vous avez raison, Fabrice.
Elles tombent souvent en panne.
Merci de votre.
Donc oui, c'est un très bon choix de revenir en arrière de la part du nouveau PDG de Casino.
Merci de votre témoignage. Carole, manager hôtesse de caisse depuis 27 ans chez Casino. Merci à vous, Fabrice, d'être intervenu aussi au 32-16. Vous faites pareil. Est-ce que c'est une bonne nouvelle à vos yeux, ce retour en arrière? On en débat jusqu'à 9h30. Il est 7h20.
C'est la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, bon réveil à vous, 7h22.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Bonjour Anthony.
Bonjour Marie, bonjour Mathieu.
Et bon appétit à tous ceux qui sont au petit déjeuner. Vous allez nous parler ce matin de viande cultivée en laboratoire, de poissons in vitro qui pourraient bientôt, là c'est vrai, débarquer dans nos assiettes.
Bon appétit, faut le dire.
Oui.
Alors, faut pas confondre, on parle pas de viande végétale, de viande à base de plantes comme on en a dans les supermarchés depuis des années déjà.
Les steaks au brocoli.
Voilà. Oui. Non, là on parle bien de viande, mais qui pousse en laboratoire. Par exemple, du poulet de culture. En gros, on va partir de cellules souches de poulet qu'on récupère dans un œuf. Ensuite, ces cellules, on les cultive, on les nourrit comme on nourrit les animaux avec des nutriments, du sel, des acides aminés, des minéraux, des vitamines, du sucre. Les cellules se multiplient dans des cuves. C'est un processus qui ressemble un peu à la fermentation de la bière. Et à la fin, on se retrouve avec de la viande de poulet dont on peut faire des nuggets, des cordons bleus, une salade César. Alors, c'est un petit côté tricatelle dans l'aile ou la cuisse.
Exactement.
Vraiment. Mais en réalité, c'est les mêmes protéines, les mêmes cellules, le même goût, les mêmes apports nutritionnels, mais sans pesticides, sans toutes les saletés qu'on peut trouver éventuellement dans certaines viandes bas de gamme. Alors, je vais vous faire hurler, mais ça fonctionne même avec le foie gras. Il y a une start-up française qui s'est lancée là-dedans. Donc, même chose, on part de cellules souches d'un œuf de canne, et en le cultivant, on se retrouve avec du foie gras qui nous disent ceux qui l'ont testé, ce qui n'est pas mon cas, a exactement le même goût et la même texture que le foie gras. Alors, pour les promoteurs de ces innovations, évidemment, il y a des avantages qui sont sont assez claires. C'est l'impact environnemental qui est négligeable. Ouais. Et puis, il n'y a pas de souffrance animale non plus.
Ça coûte moins cher ça à coûte... produire
Non, ça coûte pas moins cher pour l'instant. Probablement à terme, mais pour l'instant, ça coûte assez cher.
Mais on peut déjà en acheter? C'est autorisé? Non. C'est légal?
Non, non, c'est pas légal en France. C'est légal quasiment nulle part dans le monde, d'ailleurs, pour l'instant. À Singapour, c'est possible. Aux États-Unis, la réglementation est en train d'évoluer aussi. Alors en France, c'est plus compliqué. Il y a eu un rapport sénatorial il y a quelques mois qui rappelait son opposition anthropologique, éthique et culturelle au développement des aliments cellulaires, tout en préconisant d'accélérer la recherche, mais de miser en priorité sur l'élevage et les protéines végétales pour relever le défi de l'autonomie en protéines. Donc le chemin sera encore long, mais ça va probablement devenir nécessaire pour nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, parce que même si nous, en Occident, on a plutôt tendance à réduire individuellement la consommation de viande, dans les pays en développement, c'est plutôt l'inverse.
Ça marche donc pour la viande. Est-ce que ça marche aussi pour le poisson? Bientôt des sushis in vitro?
Aussi, ouais, du saumon de synthèse à partir de cellules souches qui ont été cultivées. C'est une start-up américaine, Wildtype, qui est à l'œuvre. Même principe que je viens de vous expliquer. Alors, on peut le servir, ce saumon fumé, en faire des sushis. Ses créateurs espèrent le voir apparaître dans les restaurants très rapidement. Là encore, on évite les dégâts de la pêche. Pas besoin d'antibiotiques. Le poisson qu'on va manger est en réalité plus sain que celui qu'on peut trouver dans les étals. Et puis, les fruits de mer, même chose aussi pour les fruits de mer. Donc, c'est assez fou, hein, de se dire qu'on peut, comme ça, cultiver de la viande dans le laboratoire. Je sais pas si vous êtes prêt. Moi, j'ai envie de tester. Mmh. Voilà. Après, je n'ai pas d'avis définitif sur la question.
Je ne suis pas sûr d'être tenté, moi. Mais bon. Merci, Anthony. C'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 7h25.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Allez, on va se détendre avec Arnaud Demanche.
Et cette semaine, il n'a pas compris la brouille entre Éric Zemmour et Marion Maréchal.
Parce qu'après Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, deuxième clash, fois c'est entre Éric Zemmour et Marion Maréchal.
Nos people, vous dites.
Oui. Depuis le meeting de lancement de campagne du 10 mars dernier, apparemment ils ne se parlent même plus, sinon par personne interposée. Mmh. C'est quand même un comble que les deux leaders de Reconquête utilisent le téléphone arabe. Alors, Éric Zemmour reproche à Marion Maréchal de n'avoir pas complètement rompu idéologiquement avec le RN. Mmh. Et par ailleurs, Jordan Bardella ne déplaît pas complètement chez Reconquête. Bref, plus rien ne va. Entre Marion et Éric, la lune de miel est terminée. Rien ne va plus entre Gargamel et la Schtroumpfette. Éric reproche à Marion de n'avoir pas complètement coupé avec son ex, qui est députée des Nains Beaumont, Marine Le Pen. Car l'ex de Marion, oui, c'est aussi sa tante, qui elle-même avait largué son père pour convoler avec Jordan. Pas de doute, nous sommes dans les Hauts-de-France. Marion, à vous! Toi aussi, tu ressens quelque chose pour Jordan. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il dit qu'il n'aime pas les Arabes? Moi aussi. Il dit qu'il veut le droit du sol? Moi aussi. Il est beau et jeune? Moi aussi. Il a des pectoraux d'acier? Moi aussi. Et hier, on m'a même dit que j'avais même des biceps en papier d'aluminium. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu vas te vautrer, quoi. C'est-à-dire que t'organises pas des campagnes politiques, Éric. T'organises des 11 septembre. Deux tours, un crash. Alors, si c'est pour faire du travail d'arabe... La branlée que vont prendre Marion et Éric aux européennes aura-t-elle raison de leur union? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode des Feux de Zemmour. Ah, sortez la série en DVD, je vous en prie.
Les Feux de Zemmour et toutes les chroniques d'Arnaud Demanche à retrouver, bien sûr, sur rmc.fr. FR. Dans un instant, votre météo et les infos de 7h30. Samedi 6 avril, bon réveil à vous. RMC 7h30.
RMC, la matinale week-end.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Marie, bonjour à tous. 5 personnes en garde à vue après la mort d'un adolescent de 15 ans, roué de coups, jeudi à Viry-Châtillon, à la sortie de son collège. L'été au mois d'avril, il fera extrêmement chaud aujourd'hui, jusqu'à 30 degrés au pied des Pyrénées. Et puis Lille monte sur le podium de la Ligue 1 après sa victoire 3-1 contre l'OM. On entendra le coach de Marseille, dépité.
D'abord le choc à Viry-Châtillon où le jeune de 15 ans roué de coups jeudi après-midi à la sortie de son collège est décédé.
Opéré dans la nuit de jeudi à vendredi, il est décédé hier des suites de ses blessures. Un drame absolu selon les mots du maire de la ville, Jean-Marie Villain, qui s'est exprimé hier. Il était en larmes, écoutez-le.
Il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie. Et puis là finalement il y a quelqu'un qui décide de faire autrement. Il y a des fous furieux qui disent que pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. C'est un drame absolu. Les enseignants, ils sont par terre, ses copains aussi, puis nous aussi. Sauf que nous, on souffre comme ça. Mais j'imagine sa maman, dans quel état elle doit être. On ne peut pas laisser ça. On n'a pas le droit.
Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, qui sera avec nous juste après le journal pour revenir sur ce qui s'est passé jeudi après-midi. Ce jeune roué de coups par plusieurs individus à la sortie de son établissement scolaire. 5 personnes ont été placées hier en garde à vue, dont 4 mineurs de 15 à 17 ans. À Montpellier, 3 mineurs impliqués dans la violente agression de Samara, 13 ans, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Et puis une autre agression particulièrement violente a eu lieu cette semaine. Une adolescente de 14 ans frappée par 5 jeunes filles dans le quartier du Beffroi à Tours Nord. Elle aurait été victime d'un guet-apens, agression filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. Ce serait partie d'échanges sur un groupe Snapchat avec des insultes, des menaces. Motif particulièrement futile selon la procureure de Tours.
L'actualité ce matin, c'est aussi le thermomètre qui va s'envoler aujourd'hui dans tout le pays, en particulier au pied des Pyrénées où il fera jusqu'à 30 degrés.
Une remontée d'air chaud venant d'Afrique qui touche donc la France. Conséquence, une hausse des températures, mais pas seulement, un nuage de sable va s'étendre au-dessus du pays. Écoutez le météorologue Patrick Marlière.
On va voir des couleurs de ciel qui vont un peu changer. En montagne, on aura peut-être des couches d'ocre qui vont se déposer sur la neige. Et puis, on pourrait voir sur nos voitures déposer un peu de poussière. Et ce n'est qu'à partir de lundi que ça va vraiment quitter la France. Donc voilà, pendant 36 heures à peu près, ces sables en altitude vont être sur le territoire. Et forcément, ça va aussi provoquer un peu de problèmes respiratoires. Il faut éviter de faire des efforts dans ce type de situation météo.
Donc je répète, on évite les efforts trop intenses et surtout quand on est trop fragile, on évite de se promener aux heures de pointe près des grands axes de circulation. L'actualité ce matin, c'est aussi une magistrate derrière les barreaux, fait extrêmement rare. Hélène Gérard, en poste à la cour d'appel d'Agen, a été mise en examen cette nuit pour 11 chefs d'inculpation, dont détournement de fonds publics. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, cette juge est notamment soupçonnée d'incohérence avec le milieu du banditisme corse.
Oui, on lui reproche à l'époque où elle était en poste en Corse, il y a une douzaine d'années, d'avoir été en lien avec Johan Carta, l'ex-président du Gazélec Ajaccio, membre présumé du groupe mafieux du Petit Bar et qui est actuellement mis en examen et incarcéré. C'est dans cette enquête que le nom de la magistrate est apparu incidemment. Échange de services, consultation de fichiers, pression autour des travaux possiblement illicites dans son ancienne villa de location déjà perquisitionnée et revendue depuis. Alors cette magistrate proche du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est aussi suspectée d'avoir ordonné des expertises fictives à son ex-mari, gendarme, ou à ses jeunes filles au père, expertises payées par la justice pour plus de 120 000 euros. Soupçon de détournement de fonds et faux en écriture publique, théoriquement passible d'un procès aux assises.
Le gouvernement a arrêté le cadre dans lequel les agriculteurs pourront installer des panneaux solaires dans leurs champs. Un décret doit être publié aujourd'hui, décret qui était attendu de longue date pour éviter que ce type de projet se développe au détriment du rendement agricole. Dans le décret, c'est encadré, les baisses de rendement ne pourront pas excéder 10%. Mais pour certains agriculteurs et certains riverains, eh bien ce n'est pas suffisant. Ils redoutent des dérives, Solène Gardré.
Oui, le décret officialise donc que 40% d'un champ au maximum pourra être recouvert par des panneaux solaires placés au-dessus de la production agricole. Panneaux installés par des entreprises qui donnent en échange un revenu complémentaire aux agriculteurs. Sauf que cela pourrait nuire à la productivité agricole, s'alarment plusieurs associations de riverains et syndicats. Maxime Buizard est administrateur national des jeunes agriculteurs.
40% de taux de couverture des sols, c'est entre 30 et 40% de perte de rendement. Plus on prive une plante de soleil, parce qu'il y a des panneaux au-dessus, moins la plante va produire.
Pour certains projets de panneaux photovoltaïques, il craint même à terme la disparition totale des champs cultivés.
Malheureusement, on en a déjà quelques dizaines en France. Des projets qu'on présenterait comme des projets agrivoltaïques, mais où en fin de compte, l'agriculture qu'il y a en dessous ne servirait que de prétexte à la production énergétique et du coup ne durerait pas dans le temps.
Le ministère de l'Agriculture se montre, lui, rassurant et a affirmé hier que la production alimentaire restera toujours prioritaire.
RMC 7h36, le foot et Lille qui prend provisoirement place sur le podium de Ligue 1.
Vainqueur 3-1 de l'OM hier en ouverture de la 28e journée, les Lillois repoussent les Marseillais à 10 points au classement. L'OM enchaîne un troisième revers de suite en Ligue 1. Écoutez le coach marseillais, Jean-Louis Gasset, pas très fier hier.
Mais on est timide, c'est vrai, en seconde mi-temps, on a donné le match, que des cadeaux. Aujourd'hui, on a été très mauvais. Il y a une espèce de sentiment de honte parce qu'on a manqué de respect déjà au football et après à beaucoup de gens.
À 17h, Lens reçoit le Havre. À 21h, le PSG, leader du championnat, affronte Clermont, le dernier de Ligue 1. Et puis notez que l'équipe de France féminine réussit ses débuts en qualification de l'Euro 2025. Les Bleus ont battu l'Irlande 1-0 grâce à un but de Marie-Antoinette Katoto.
Et il y a beaucoup de questions autour de Paris-Roubaix.
L'arène des classiques qui s'annonce mouvementée demain avec beaucoup de boue, voire des flaques. Une édition qui s'annonce, bah, comme d'habitude, marquée par les chutes. Même si le peloton se méfie déjà avec notamment la chute de Vingegaard jeudi sur le Tour du Pays Basque. Il y a une prise de conscience à Arnaud Souk.
Oui, et le Suisse de la Groupama FDJ, Stéphane Kung, le dit, les chutes en série ont forcément un impact sur le peloton.
Ça fait réfléchir, c'est clair. On fait pas du sport pour terminer à l'hôpital. On fait du sport pour être compétitif, pour donner du spectacle aux gens.
Un spectacle, oui, avec des coureurs de plus en plus performants, portés par des vélos ultra modernes. Peut-être d'ailleurs l'une des causes des accidents, selon le champion du monde, Mathieu Van Der Poel.
Avec les grands braquets, on peut aller encore beaucoup plus vite. Les freins de disque aussi, on peut freiner encore plus tard et plus fort.
Sans oublier les oreillettes, critiquées par certains. Pointer du doigt aussi les parcours des courses. Alors sur Paris-Roubaix, une chicane ralentira de moitié la vitesse des coureurs à l'entrée de la trouée d'Arambert. Et si Mathieu Van Der Poel est sceptique,
la chicane, c'est peut-être encore plus dangereux.
Le jeune néo-zélandais Laurens Pitti apprécie.
Je trouve ça bien pour la course. S'imaginer rentrer à 60 à l'heure dans ces pavés humides, il faut avoir les yeux fermés et prier pour que ça passe. Moins de vitesse, ce sera plus sûr.
Pour le manager de la Groupama FDJ, Marc Madiot, la prise de conscience ne changera rien.
Moi, je vous donne rendez-vous dans 5 ans. On fera la même interview.
Les chutes feront toujours partie du vélo, quelles que soient les mesures adoptées.
La sécurité au centre des débats, on va y revenir dans la Story Sport ce matin avec Antoine Salva, 8h20. Et puis notez que Paris-Roubaix, ce sera à suivre en direct toute la journée demain sur RMC. Les grandes gueules du sport délocalisées demain en direct de Compiègne, point de départ de la course.
Et les grandes gueules du sport, que vous attendez, je le sais, 9h30 midi en studio pour ce samedi avec Jean-Christophe Drouet. Merci beaucoup Anaïs Castagna. On se retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 7h38.
À suivre dans la matinale week-end.
Mais comment ils ne se sont pas aperçus avant que les clients n'aimaient pas ça, nous écrit Marilyn ce matin sur Direct Studio. Même chez le roi Merlin, on est toujours obligé de se faire aider. Rien de tel que le contact humain. De quoi parle-t-on ? Des caisses automatiques dans les supermarchés. Est-ce qu'il faut revenir en arrière ? C'est une volonté du nouveau patron de Casino. Arrêtez avec ces caisses automatiques. 32-16, le débat se poursuit avec vous. Et tout à l'heure, Olivier Salomon, spécialiste de la grande distribution, sera notre témoin RMC à 8h10.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Nicolas Poincaré, direction La Havane ce matin.
Le syndrome de La Havane, c'est un mal mystérieux qui touche les diplomates américains. On sait enfin d'où il vient.
À tout à l'heure, Nicolas. Avant cela, la mort de Chamseddine à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 5 jeunes de 15 à 20 ans en garde à vue depuis hier soir. Le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, est notre invité dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Soyez les bienvenus, il est 7h42.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon.
Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Marie Villain. C'est un drame absolu. Les enseignants sont par terre, ses copains aussi et nous aussi. Ce sont vos mots hier et vos larmes qui ont ému tous ceux qui les ont entendus après la mort de Chamseddine, ce collégien de 15 ans passé à tabac à 100 mètres de son collège. Comment allez-vous ce matin? Comment vont vos administrés? Comment s'est passée la soirée et la nuit?
Alors d'abord, la nuit a été très calme à Viry, comme toutes les nuits depuis de longues années. Comment je vais moi, c'est pas très très important. Ce qui est important maintenant, c'est comment vont sa maman, sa petite sœur, son grand frère.
Vous avez
eux
des nouvelles?
Va falloir soutenir. J'en ai eu indirectement puisque sa petite sœur et son frère étaient présents hier soir à la MJC dans cette cellule d'écoute qui a été mise en place par la mairie et puis toute la MJC des passerelles et puis les associations de prévention qui étaient présentes également. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont venues là pour bien dire leur soutien bien sûr à la famille et puis toute l'émotion qui était la leur, toute l'émotion qui est celle de tous les habitants de Viry-Châtillon. Vous savez, j'ai beaucoup parlé des réseaux sociaux. C'est vrai que moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux et ça permet justement à toutes les personnes qui souhaitent transmettre ces mots de soutien, ils envoient ça à la mairie, ils m'envoient ça à moi, par texto, par téléphone, par SMS, et de façon à ce qu'on puisse ensuite leur retransmettre, et on va le faire.
Il serait bon que les réseaux sociaux ne servent qu'à ça, Jean-Marie Villain.
Comment ?
Il serait bon que les réseaux sociaux ne servent qu'à ça.
À qui le dites-vous ? Mais vous savez, c'est pour ça que dans une société, faut jamais tout rejeter de ce qui est des innovations. C'est important de pouvoir avoir cette parole libre avec les habitants. Moi, je suis très très attaché à ça. J'essaie d'être le plus disponible possible parce que pour moi, le mandat de maire, c'est euh, c'est un peu de d'être au contact. Il faut comprendre les gens, il faut essayer de les comprendre. Vous savez, je suis autodidacte, hein, j'ai pas fait de grandes études, donc ce qui m'importe, je suis né à Viry. C'est ça qui est pour moi le plus important.
Et on entend, hein, depuis jeudi, Jean-Marie Villain, votre engagement, votre sincérité, et qui s'est aussi apparu par votre émotion profonde et sincère hier. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ces gardes à vue. Un adolescent de 17 ans interpellé en fin d'après-midi, 4 autres personnes interpellées en début de soirée hier, une jeune fille de 15 ans, 2 ados de 17 ans, un majeur de 20 ans. Est-ce que vous avez été informé de la raison de leur garde à vue ?
Non, si ce n'est qu'il semblerait quand même que les caméras de vidéoprotection ont joué leur rôle, peut-être pas exclusivement. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait de la part des enquêteurs qui ont été. Je crois que et la préfète et le ministre de l'Intérieur ont réagi très fort pour que très rapidement, et c'est souvent très important de pouvoir réagir rapidement pour trouver justement des solutions et trouver les coupables. Maintenant, je ne peux pas dire ce sont les coupables, on sait bien, c'est des gens qui sont en garde à vue, il faut attendre la suite de l'enquête pour le savoir.
Vous posez la question, on n'a toujours aucune idée précise du mobile de cette agression.
C'est dramatique, mais ce qui est aussi dramatique, c'est l'âge, c'est l'âge, ce sont donc des mineurs qui ont commis ça. Alors il y a un majeur dans le lot, hein, bien sûr, mais ce sont des mineurs, ça fait encore plus d'effroi, ça fait encore plus peur, parce que...
Violence désinhibée, disait Emmanuel Macron, chez des jeunes, de plus en plus jeunes.
C'est exactement ça, mais vous savez, moi j'ai le souvenir des deux, trois nuits qu'on a passées dans les rues à Viry au moment des émeutes, où on voyait même des mamans avec des gamins de 5-6 ans venir pour voir ce qui se passait. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette curiosité, peut-être cette inquiétude aussi, quand des enfants de 5-6 ans commencent déjà à avoir cette violence, cette ultra-violence comme ça, c'est moyennement surprenant qu'un jour, ils en viennent peut-être un jour à commettre aussi l'irréparable.
Vous disiez hier, il faut que nous, adultes, on réapprenne à punir. Et à punir,
oui,
vraiment.
Sûr.
Et à mettre
bien
dans sûr. La tête des enfants qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Qu'est-ce que ça
bien
veut
sûr,
dire exactement?
Ça veut dire tout simplement que quand on a un enfant, c'est quasiment la plus belle chose qui puisse nous arriver. Donc du coup, il faut avoir dans la tête qu'il faudra que toute sa vie, ça soit la plus belle chose qui vous soit arrivée. Et pour ça, il y a des règles à apprendre, parce qu'on vit en communauté, on vit ensemble, on vit avec des gens autour de nous, avec des voisins qu'il faut respecter. On n'est pas obligé de mettre la musique jusqu'à 2h du matin sans les respecter. Et si on est chacun, si les adultes se comportent de cette façon quand leurs enfants sont là, eh bien peut-être qu'ils les écouteront. Mais vous savez, quelqu'un qui amène son enfant à l'école et qui garde sa voiture en triple fil, qui fait descendre son gamin de façon complètement inconsciente du mauvais côté de la voiture, et qui se fiche éperdument de savoir qu'il met en danger potentiellement d'autres enfants qui arrivent à l'école. C'est montrer déjà à son enfant que finalement, se garer en triple fil, c'est pas si grave que ça.
Alors, responsabilité des parents, responsabilité de toute la société, plus de
bien
fermeté
sûr, mais
judiciaire,
de la nôtre,
plus d'élus, de prévention scolaire.
On a aussi notre responsabilité, vous savez, en tant qu'élu, il faut qu'on explique ça, il faut qu'on donne les moyens aux parents de comprendre, il faut leur apprendre. C'est cette fameuse école des parents qui existe dans certains établissements scolaires. Il faut l'aider, il faut y participer. Moi, je reçois aussi des classes parce que je veux expliquer aux gens que c'est un engagement sincère que je fais vis-à-vis de la mairie. Je veux leur dire que c'est important d'être au service des autres, c'est important là. Le bénévolat, c'est ce bon côté de la vie qu'il faut montrer aux gens plutôt qu'en permanence leur montrer des choses catastrophiques. Il ne faut pas ignorer les choses catastrophiques. La presse est là aussi pour ça, pour dire et pour montrer les choses. Mais ça n'empêche pas qu'il faut apprendre surtout ce bien et ce mal. C'est passé maintenant par perte et profit.
Jean-Marie Villain, vous parliez de la cellule d'écoute à la Maison de la Jeunesse, la MJC chez vous à Viry-Châtillon, mise en place hier. Est-ce qu'elle va rester ouverte pendant plusieurs jours?
Oui,
il y a les vacances qui viennent de commencer pour les camarades de Cham Sédine.
C'est pour cette raison justement que c'est important qu'il n'y ait pas un vide sidéral avec cette entrée dans les vacances. Il faut impérativement que toutes les personnes qui, à un moment donné, pendant ces vacances, se diront dans ma tête, ça va pas. Faut que je parle, faut que je dise que j'ai quelqu'un en face de moi, à qui je puisse exprimer ma détresse, ma solitude, mon effroi, de façon à pouvoir poser des mots sur ce qui est quelque chose de dramatique.
Merci beaucoup pour vos mots, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, au lendemain du décès de Shamseddine, 15 ans, collégien de votre commune. Il est 8h10, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Ah, bienvenue sur RMC. Vous connaissez cette chanson, peut-être que vous vous souvenez qu'elle fait partie de la bande originale d'un film, Revanche d'une blonde. Eh bien, cette comédie culte va devenir une série. On va voir ça dans le bonus RMC dans 2 minutes.
Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Marie.
Ce matin, l'histoire du syndrome de la Havane. C'est un mal mystérieux qui touche les diplomates américains et on a enfin la clé du mystère.
Oui, le syndrome de la Havane est connu depuis au moins 10 ans. Des diplomates américains se sont régulièrement plaints de fortes migraines, de vertiges ou de nausées. Des symptômes qui surviennent après avoir entendu des sons très aigus. Et dans certains cas, des lésions au cerveau ont même été détectées. En 2016, les agents en poste à Cuba ont été particulièrement touchés, d'où le nom de syndrome de la Havane. Mais en réalité, le phénomène avait commencé avant. Environ 200 victimes ont tout de même été recensées en Chine, en Allemagne, en Australie, en Russie et aux États-Unis. En juin dernier, un haut responsable du Pentagone a encore été touché lors d'un sommet à Vilnius. Longtemps, les autorités américaines n'ont pas vraiment pris l'affaire au sérieux. On parlait d'un mal psychosomatique attribué au stress. L'hypothèse d'une attaque par les ondes venant de la Russie avait bien été évoquée, mais jamais confirmé.
Et pourtant, c'était la bonne hypothèse.
Et oui, c'est ce que vient de révéler une enquête du magazine américain Insider. Les journalistes ont identifié le service russe à l'origine de cette guerre des ondes. C'est une équipe du GRU, le renseignement militaire russe, et en particulier l'unité 2955, connue pour ses empoisonnements, notamment l'empoisonnement de l'espion Skripal en Angleterre en 2018. L'enquête a retrouvé la trace du chef de cette unité et de son fils, qui étaient présents l'un et l'autre lors de plusieurs épisodes où des diplomates ont été victimes chez eux, à leur domicile, de ces bruits aigus. L'adjoint du chef de service était un ingénieur militaire qui travaillait au développement d'une technologie sur les attaques acoustiques, justement. Et cet ingénieur a reçu une grosse prime pour le féliciter pour ses travaux. The Insider affirme que le Kremlin a donné son feu vert à cette opération spéciale, qui a donc touché des dizaines de diplomates américains, ce qui peut être considéré comme un acte de guerre de la Russie contre les États-Unis.
Merci Nicolas. Racontez-nous, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
7h53.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Marie, la revanche d'une blonde.
Et oui, le classique des années 2000, Mathieu. Vous l'avez forcément vu, la revanche d'une blonde.
Au moins une fois.
Au moins une fois. C'est pas plus?
Non.
Pensez que c'était votre film préféré.
Ah non, quand même pas.
Alors pour ceux qui auraient raté ce chef-d'œuvre, c'est l'histoire d'Elle Woods, interprétée par Reese Witherspoon, qui se fait quitter par son compagnon parce qu'il veut être sénateur et qu'elle est trop blonde, selon lui, pour devenir sa femme. Et pour se venger, elle va décider de prouver son intelligence en s'inscrivant en droit à l'université d'Harvard. C'est un chef-d'œuvre, on est d'accord?
Oui, du cinéma américain.
Voilà. À l'époque, le film avait vraiment bien marché. Cependant, 140 millions de dollars récoltés au box-office mondial, ce qui avait entraîné la production et la sortie de 2 autres films pour compléter la trilogie. Et donc là, c'est un nouveau projet qui est en train de voir le jour du côté d'Amazon Prime Video. Alors non, ce ne sera pas un 4e film comme ça avait pu être annoncé en 2022, mais un spin-off sous forme de série. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce spin-off, mais ce qu'on sait, c'est que Reese Witherspoon, donc l'ancienne actrice principale, sera cette fois-ci coproductrice. Elle sera accompagnée de 2 autres coproducteurs qui sont les anciens producteurs des séries Newport Beach et Gossip Girl. Deux grands classiques aussi, évidemment. Et au niveau de l'intrigue, rien n'a encore été dévoilé, donc on ne sait pas si Reese reprendra son rôle. Mais étant donné que c'est un spin-off, il y a de fortes chances quand même que ça se concentre vraiment sur un personnage secondaire des films. En général, c'est comme ça que marchent les spin-offs. En tout cas, Prime Video voit grand pour ce retour, puisqu'un 2e spin-off sur l'univers de la revanche d'une blonde serait déjà envisagé. Il perd pas de temps. Hein.
Moi, on capitalise sur le succès.
Et oui.
La revanche d'une blonde, bientôt en série sur vos écrans. Merci Marie Lafolas. Vous êtes sur RMC. Les infos de 8h arrivent et la météo aussi très importante ce matin. Vous allez voir qu'on va battre des records presque partout.
Oui, c'est ça, les températures sont exceptionnelles aujourd'hui.
J'ai besoin d'une épouse plus sérieuse que toi.
Tu vas me quitter simplement parce que je suis trop blonde.
RMC,
la matinale week-end.